Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un YouJob spécial ici au Palais du Peuple, au Chapiteau, pour les grands salons de l'agribusiness et du digital. C'est un événement qui réunit plusieurs acteurs évoluant dans les secteurs agricoles. On parle ici des entrepreneurs, de grandes sociétés, des investisseurs et également des marques, voire même de banques, pour parler agribusiness et digital. Pour cette édition, la thématique centrale, c'est de l'idée à la terre. On parle de la 6e édition du Grand Salon de l'agribusiness et du digital. C'est pour la première fois à Kinshasa, mais l'événement est organisé déjà dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. L'aventure a commencé à Lubumbashi avant de s'étendre à Kolwezi et ensuite à Bujima et maintenant à Kinshasa. Donc aujourd'hui, dans ces numéros spéciaux, vous verrez défiler différents participants. On parle des organisateurs, de sponsors, de participants, des entrepreneurs, voire même de candidats au challenge de l'événement, parce que l'événement vient également accompagner et financer des entrepreneurs qui évoluent dans les secteurs agricoles. Nous allons commencer avec Monsieur Jonathan, c'est le cofondateur de GESAD, les grands salons de l'agribusiness et du digital. Il est également le vice-président de cet événement qui se tient depuis maintenant 5 ans. Nous sommes avec Monsieur Jonathan Bouyoum Ditang, cofondateur et vice-président du GESAD, ces grands salons de l'agribusiness et du digital organisé pour la première fois à Kinshasa, ouais, mais qui existe depuis 2022. Donc c'est déjà un long chemin que vous faites dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Vous avez commencé à Lubumbashi, ouais, ensuite vous êtes parti à Kolwezi, ouais, et récemment vous étiez à Mbujimayi. Aujourd'hui vous êtes à Kinshasa, donc l'idée c'est d'étendre l'initiative.
Exactement.
Et déjà on va commencer par vous féliciter par rapport à l'initiative et
merci
l'organisation. Nous retrouvons énormément de partenaires et d'institutions, de sociétés,
ouais,
qui sont très présentes dans le domaine.
Ouais.
Votre objectif, c'est de moderniser et de développer les secteurs agribusiness, mais également les digital. D'abord, bonjour encore une fois, monsieur Jonathan.
Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis honoré. Voilà, oui, en effet, le GESAD, c'est le grand salon de l'agrobusiness ou agribusiness et du digital en Afrique, GESAD en sigle. Alors effectivement, la mission qu'on s'est fixée, Teddy et moi, Teddy qui est l'initiateur en réalité de ce projet et moi je l'ai accompagné, donc ça me fait de moi un cofondateur, était de booster le secteur de l'agriculture. Pas le secteur de l'agribusiness, mais le secteur de l'agriculture. Mais quand on parle d'agriculture, forcément il y a du business qui en découle, donc on parle de l'agribusiness. Développer le digital, c'est pas exactement la mission, c'est plutôt le digital accompagne le développement de l'agriculture. Et l'agriculture, pour nous, ne peut pas se développer sans le digital. Pour nous, ce sont deux secteurs qui sont indissociables pour pouvoir obtenir le résultat le plus optimal. Donc c'était cette petite clarification que je voulais donner.
C'est justement magnifique. Alors l'initiative a vu le jour en 2022. Vous avez commencé à Lubumbashi.
Oui.
Mais avant, vous étiez déjà dans l'organisation de plusieurs autres activités.
Alors moi, personnellement, je suis entrepreneur, effectivement, depuis, disons que je me suis lancé dans la vie professionnelle depuis 2015. Mais le projet GESAD a vu le jour en réalité en 2017, mais de manière informelle. Et on s'est formalisé, ça veut dire créer une société commerciale de droit congolais en 2022 en effet. Et c'est la société GESAD Africa SAS dont le président est Teddy Colli, mon associé, et moi j'en suis le vice-président.
Alors de Lubumbashi en passant par Kolwezi, Mbujimayi et maintenant Kinshasa,
oui.
Pourquoi ?
Parce que simplement, on ne veut surtout pas être catégorisé comme une organisation communautaire ou même, en allant plus loin, tribaliste. Notre ambition, notre vision est de relever la nation. Nous avons une passion, une passion et un amour énorme pour notre pays. Et au lieu de tirer à balles réelles ou à boulets rouges envers notre gouvernement, on a décidé simplement de l'aider avec nos moyens et avec nos ambitions. Et on veut absolument toucher toute la RDC. Donc là, on a fait déjà 4 provinces. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, on essaiera d'en toucher encore 3 autres. C'était 3 éditions cette année, en 2026. 3 éditions éprouvantes, mais aussi instructives, productives. Aujourd'hui, je pense qu'on est incontournable en termes d'événements d'agribusiness, et l'ambition est de devenir réellement ce point de référence pour les jeunes entrepreneurs, pour les entrepreneurs, pour le gouvernement en termes d'agriculture.
Alors ça se voit que cette année vous avez changé des rythmes. Oui. 2022 à 2025, je pense, c'était 3 éditions.
À Lubumbashi,
oui. 3 éditions ou 2. En 2026, vous avez organisé 3 éditions.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous a amené à ces rythmes? Est-ce que c'était un défi en même temps ou c'est vraiment les besoins qui vous a amené à...
Alors, pour bien préciser, donc effectivement, de 2022 à 2025, on organisait une grande édition annuelle à Lubumbashi, au Pullman Caravia. Et en 2025, on avait fait une édition spéciale au mois d'avril 2025 à Kolwezi, sous le haut patronage de Son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuka. Et effectivement, Teddy et moi, on s'est dit, bon, il est temps d'enclencher la troisième vitesse. Donc on s'est dit, pour les 5 ans, ça fait 5 ans d'existence de notre structure, on va la célébrer en organisant 3 éditions la même année. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on commence tout d'abord par le Kasaï oriental, qui pour nous est considéré comme un pôle central et stratégique en termes d'agriculture et d'agrobusiness en RDC. Donc il était normal et logique de commencer par le Kasaï. Et puis nous sommes redescendus à Kolwezi et pour terminer enfin à la capitale Kinshasa, là où nous n'avions encore jamais organisé une seule édition du GESAD.
5 éditions, c'est déjà un grand marathon, mais on peut aussi parler des retombées parce que vous avez annuellement organisé l'événement à Lubumbashi.
Exactement.
Est-ce que vous êtes senti dans une position de vous dire que ok, on a accompli notre tâche à Lubumbashi, maintenant on voyage, maintenant on se déplace un peu?
Alors, accompli notre tâche, c'est beaucoup dire. Je pense que la mission, comme on vous l'a dit, c'est sensibiliser aussi au niveau du secteur de l'agrobusiness, faire comprendre que l'agriculture n'est pas un secteur associé à la pauvreté, n'est pas un secteur de subsistance, mais plutôt un secteur de richesse et un secteur de prospérité. C'est cette sensibilisation-là que je pense qu'on continuera de faire pendant encore de très longues années. Donc la mission accomplie, je dirais non. Simplement, il est temps aussi de s'identifier, se faire connaître ailleurs, dans le pays. Que les entrepreneurs, que les Congolaises et les Congolais sentent, s'identifient également dans ce que nous pouvons faire et ce qu'on peut apporter au secteur agricole sur toute l'étendue de la RDC.
Alors, chaque année, vous avez des recommandations que vous faites, que ce soit aux autorités,
oui,
ou à toutes les personnes qui sont concernées.
Oui.
Quelles sont quand même les retombées aujourd'hui?
Alors, effectivement, chaque année, nous, ce qu'on fait, on produit un rapport d'activité et des recommandations. Les recommandations, elles servent à quoi? Elles servent d'abord à démontrer que le GESAD ne travaille pas en vain, et puis de deux, à devenir ce porte-voix et cette plateforme pour le secteur de l'agribusiness. Donc, comme recommandation, on a écouté l'intervention très pertinente hier de Son Excellence le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, M. Muindo Nzangi. On l'a écouté, c'était extrêmement intéressant parce qu'il a parlé de 5 piliers et de 4 préalables. En fait, tout est prioritaire actuellement dans l'agriculture, absolument tout. Mais ce qui est au-delà de toutes ces priorités, ce qui est primordial, c'est l'accès à la terre. Il manque l'accès à la terre. Aujourd'hui, Son Excellence le Président, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat, s'évertue à construire des routes afin de connecter toute la RDC. Mais lorsque vous prenez l'exemple Kinshasa-Tshikapa, ça c'est le ministre d'État qui l'a dit, vous faites cette route, vous vous rendez compte que de part et d'autre, il n'y a que de la forêt. Alors, et on va se plaindre qu'il n'y a pas de desserte agricole. On dit mais non, les routes sont asphaltées, qu'est-ce qu'on fait de ces terres-là? Et on se rend compte que ces terres sont thésaurisées, ces terres sont détenues par des privés, par des hommes politiquement, des hommes ou des femmes politiquement exposés. Et donc, au final, on n'en fait rien. Donc c'est ça la première recommandation aujourd'hui que je peux soumettre, c'est l'accès à la terre. Donnez-nous enfin l'accès à la terre pour que nous puissions cultiver.
L'accès à la terre, une priorité pour valoriser cette ressource que nous avons, parce que lorsqu'on parle des ressources en République démocratique du Congo, on a souvent tendance d'abord de penser aux minéraux, alors que nous avons également notre sol qui est très riche et arable. Alors, vous parlez du digital comme grand moyen pouvant moderniser et permettre le développement du secteur agriculture, notamment faciliter cet agribusiness, le business dans le secteur. Est-ce qu'il y a eu des solutions digitales quand même palpables qui ont été proposées et qui aujourd'hui portent des fruits après ces années du GESAD ?
Du GESAD, oui, tout à fait. En fait, par exemple, nous, on travaille avec Vodacom, qui est un très grand télécom qui n'est plus à présenter, qui a son application Moloni. L'application Moloni permet en temps réel et avec précision d'avoir les informations qui sont indispensables pour une production et une culture optimale, notamment la météo, notamment l'accès aux semences, aux intrants agricoles et aussi au nombre de producteurs et ce qu'ils produisent dans un périmètre bien défini. Ce sont des informations qui sont capitales. Je vous donne un exemple. Au Lualaba, dans le secteur Luilou précisément, ils doivent produire le maïs et le blé, mais il y a, durant la saison des pluies, il y a 2 semaines, plus ou moins, où il n'y a pas de pluie. Sauf qu'on ne sait jamais identifier dans quelle période. Alors grâce à l'application Moloni, on sait définir clairement à quelle période sans pluie vont apparaître et donc les producteurs vont pouvoir se préparer. C'est extrêmement primordial parce que ça vous empêche des pertes de production et des pertes de semences. Ça, c'est un de deux. Nous avons Adonai Farming Center qui est un partenaire qui nous accompagne également depuis de nombreuses années, qui a tout un système d'irrigation intelligent. Ça veut dire que lorsque vous connectez à Adonai Farming, il y a un système automatique qui se déclenche pour irriguer et donc arroser vos productions. Nous avons également notre société Fitech qui, elle, produit des drones technologiques, drones agricoles qui permettent auxquels en fait, on peut même rattacher des systèmes d'irrigation, des systèmes de fertilisants, des systèmes de pesticides et qui remplacent facilement. En une heure, le drone peut couvrir 100 hectares. Donc, à comparer à une personne qui doit le faire à main nue et à pied, ou même avec un tracteur, vous avez un gain de temps et donc un gain d'argent significatif. Donc voilà comment le digital de manière simple peut réellement optimiser et changer totalement votre vie agricole.
Monsieur Jonathan, nous n'allons pas vous prendre votre temps, vous êtes très occupé.
Non, c'est un plaisir, merci.
Oui, oui. Un dernier mot à dire à nos éditeurs qui vous suivent aujourd'hui, je venais à Kinshasa. Qu'est-ce que vous comptez laisser aux oreilles des éditeurs des Chinois qui vous suivent et qui sont notamment dans les secteurs?
Alors l'agriculture est une question qui nous concerne. C'est un sujet qui nous concerne vraiment tous et toutes. Parce que l'agriculture, c'est ce que nous mangeons, l'agriculture, c'est ce que nous buvons, l'agriculture, c'est ce que nous portons. Alors avant de penser à d'autres biens ou à d'autres secteurs qui sont tout aussi importants, il faut un peu se reconcentrer sur l'agriculture, ce qui va nous faire vivre et nous rendre notre dignité humaine. Alors moi, j'invite à toutes les personnes qui m'écoutent à nous rejoindre. Nous avons un site internet, nous avons des plateformes, surtout les réseaux sociaux, à nous rejoindre afin que nous constituions cette armée verte parce que la guerre que nous sommes en train de mener est une guerre silencieuse. Nous devons nous rassembler tous afin de remporter cette victoire.
Merci. Pour son panel, la thématique était simple mais très importante, les exploitations au marché, infrastructure et logistique au service de la chaîne des valeurs agricoles. Madame Fanny, vous avez été nouvellement nommée directrice de la régie des gestion des déchets des Kinshasa, déjà dans votre domaine aujourd'hui, depuis plusieurs années, l'assainissement, les questions écologiques rentrent vraiment dans vos activités. D'abord, comment vous sentez aujourd'hui par rapport à cette lot de responsabilités qui vous attend?
J'ai travaillé quand même dans le domaine, vous-même vous venez de le dire, dans le domaine du développement durable et plus particulièrement dans le domaine de l'assainissement pour la ville de Kinshasa pendant les 2 dernières années. Je suis donc très au clair du challenge qui m'attend, mais je suis aussi très au clair de la vision que je veux impulser pour la REGEDEC, de la vision intégrée de gestion des déchets du gouverneur également. Et je suis déjà en contact avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs de la collecte, les acteurs de la valorisation, les acteurs publics, privés. On a déjà mobilisé beaucoup de partenaires et je suis convaincue que c'est en y allant de manière méthodique, réfléchie, grâce aux différentes études qui ont déjà été réalisées, grâce aux différentes activités qui ont été faites, qu'on y arrivera un pas après l'autre. Je ne veux pas lancer un appel, mais c'est vrai que nous allons avoir besoin de beaucoup de monde, de tous les acteurs. Ça va passer par ceux du secteur de l'assainissement directement, mais également le digital, les télécoms. On va avoir besoin de communication, on va avoir besoin de sensibilisation. On va vraiment avoir besoin de créer et de mettre en synergie tout un écosystème. L'assainissement est extrêmement transversal. Et donc, on a vraiment besoin de tous les acteurs pour aller dans la même direction et pouvoir avancer. Mais c'est vrai que j'arrive à un moment où le projet notamment de Clean Label va commencer, le projet financé par la Banque mondiale. Et donc, on va également pouvoir bénéficier de cet appui de la Banque mondiale pour commencer le travail.
Et votre nomination a également été vraiment qualifiée, a été marquante, notamment pour votre vision. Vous pensez que la gestion des déchets n'est pas un coût, mais un business?
Voilà, exactement. Donc, mon objectif, c'est de faire en sorte que l'assainissement ne soit plus un problème, ne soit plus un coût subi, mais un levier générateur de valeur, de richesse, que ce soit des commodités énergétiques, que ce soit des commodités revendables, que ce soit de l'engrais, comme on en a discuté tout à l'heure, et aussi créateur d'emplois pour la population. Je pense que le président de la République avait expliqué lors de sa campagne pour son deuxième mandat qu'il souhaitait faire en sorte de créer 50 000 emplois par million de tonnes de déchets créés. Donc, on va essayer de s'aligner avec sa vision, ainsi qu'avec la vision du gouverneur. Et moi, je suis convaincue qu'on peut rapidement générer des recettes de l'assainissement à partir du moment où on structure et on crée des synergies pour être plus efficient.
Et notamment, il faut des bonnes infrastructures aussi, une bonne logistique. Aujourd'hui, vous avez été panéliste dans GESAD, dans cette thématique qui aborde notamment la question des exploitations au marché, la question des infrastructures et des logistiques. Est-ce que vous pensez par rapport, parce qu'on parle de ces deux domaines qui rentrent au service de la chaîne des valeurs agricoles. Les GESAD, c'est un salon qui veut développer, moderniser l'agribusiness, l'entrepreneuriat dans les secteurs agricoles et même dans les digitales aussi. Est-ce que vous pensez, en ces sens-là aussi, mener certaines actions par rapport aux partenaires notamment que vous évoquez?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai évolué dans le secteur agricole en RDC pendant 10 ans avant de créer ma société et finalement être nommée à la tête de la Régedec. Donc, comme je dis, l'objectif, c'est vraiment créer des synergies. C'est vrai que mon panel, parfois, on a un peu du mal à voir le lien. Agriculture, digitale, infrastructure, logistique. Mais en fait, ce que j'aimerais faire comprendre aux gens, c'est vraiment cette vision sur les déchets. Les déchets sont une source d'énergie, les déchets sont une source de fertilisant pour nos plantations. Les déchets sont quelque part une mine d'or qui peuvent donc permettre aux sociétés agricoles d'être plus performants, d'être plus efficients au niveau énergétique et aussi d'être plus autonomes. Je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé dans une entreprise dans laquelle 80% de l'énergie de l'usine d'extraction d'huile était issu de la valorisation des déchets organiques issus de l'extraction. Donc c'est l'économie circulaire et donc cette économie circulaire est à mettre en place au sein des unités agricoles. On va produire des déchets, on a besoin de ça, on a besoin d'énergie. Comment faire en sorte que ces déchets génèrent de l'énergie ?
Et de l'énergie qui peut toujours servir, que ce soit dans les secteurs agricoles ou autres. Merci beaucoup, Madame Fanny. Vous avez énormément d'occupations, donc nous allons vous laisser partir. Mais quand même un dernier mot, vous allez dire à nos auditeurs qui vous suivent en ce moment, notamment par rapport à votre responsabilité. Mais vous n'êtes pas seulement dans ça, vous êtes également, vous êtes toujours dans ces mêmes domaines, mais vous êtes à la tête de plusieurs projets.
Bon. C'est vrai que j'ai cofondé la société Climate and Sustainability Expertise avec Monsieur Junior Tutea. Mais voilà, je suis actuellement, je ne suis plus opérationnelle dans cette société. je vais me vouer à 100% à mon nouveau poste à la tête de la Régedec, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de dévouement.
Vraiment. Merci beaucoup, Madame Fanny. C'est un plaisir de vous avoir avec notre micro.
C'est un plaisir pour moi aussi.
D'accord, merci beaucoup. On ne peut pas parler de la modernisation de la Grubusiness sans associer le groupe GBE Agri, qui est l'un des plus grands groupes agro-industriels en République démocratique du Congo. Alors, j'ai le plaisir d'ailleurs d'aller voir dans notre média corner la directrice de projet et communication de cette compagnie, Madame Miss Bangala.
Bonjour.
Vous accompagnez ces événements depuis plusieurs années. On parle de la modernisation, du développement du secteur agricole, essentiellement l'agro-business. Et vous représentez GBE Agri, qui fait partie quand même des plus grands groupes agro-industriels en République démocratique du Congo. Vous existez depuis plusieurs années et vous accompagnez également cet événement depuis plusieurs années. Vous étiez à Lubumbashi et partout ils sont passés. Qu'est-ce qu'on sait de cette collaboration avec le grand salon et l'agro-business et digital?
Pour moi, en tout cas, c'est un honneur d'être là, de participer à cela. Pourquoi? Parce que nous arrivons dans un tournant où, depuis le discours de notre président en août 2025 pour l'agenda agricole du Nunavik, Pour que ces acteurs du domaine agricole soient un peu mis en lumière. Et avec ces gens de salon, je veux que ça devienne aussi grand que le Saran, pourquoi pas celui de Ninove en Allemagne et tout. Et que ça nous représente vraiment dans ce secteur. Et dans ce domaine, M. Teddy et M. Jonathan, je les encourage. Et nous les sponsorisons à chaque fois pour faire en sorte que Tout soit mis en lumière par rapport à nos problématiques et nos avancées aussi dans les domaines agricoles. Parce que ce n'est pas seulement planter un panier ou un EVA et vous rentrez chez vous que ça s'arrête là. Il y a le suivi par la suite. Il faut les entretiens, il faut les engrais, la maturité, la récolte et la chaîne de production, la transformation avec le maïs et les autres produits que GBE Agri fait. Donc dans tout ça, on a été vraiment reconnaissant d'être vraiment mis en association directe avec les partenaires du salon, qui est le gouvernement central à travers le ministre de notre secteur de tutelle, qui est l'agriculture, et le ministre nous a fait un discours assez percutant, qui nous a donné de l'espoir par rapport à tout ce que nous rencontrons comme problème. Et cela, c'est vraiment un grand merci et une grande ouverture qu'on a eue dans ces salons en termes d'échanges et de capacité qu'on peut avoir par la suite dans notre développement continu dans les domaines agricoles.
L'RDC, c'est plus de 2 millions d'hectares carrés, étendue très vaste, et des terres arables. On a un sol très riche. Lorsqu'on parle de ressources en République démocratique du Congo, on a tendance à penser d'abord aux minéraux, mais les sols sont une richesse énorme pour l'agriculture. Alors, vous rencontrez énormément de défis, mais vous êtes l'un des géants dans les secteurs en République démocratique du Congo. D'ailleurs, vous êtes présent dans la Mongala, l'Équateur, la Tchopo, les Congos centrales, la Tchouapa. Vos activités sont essentiellement centrées sur quoi?
Alors, notre activité principale, c'est centrée sur le palmier à huile. Alors, nous produisons le palmier à huile, nous avons des usines pour faire l'huile rouge que nous revendons par la suite à nos partenaires sur place ici. Je suis sûre que vous mangez notre huile chez vous avec Palco qui vend l'huile Regina. Donc c'est déjà l'huile de GBE Agri. Et puis on a aussi le caoutchouc marchand qu'on appelle, qui est fait par nous dans les provinces, en outre dans la Mongala et le Congo central. Parce que chaque région, comme vous le savez, dans notre pays, c'est un peu labellisé dans des situations climatiques. Chaque région a ses propriétés et chaque région a ses capacités de production selon les périodes. Et comme on sait que le palmier aime beaucoup l'eau, et le palmier ça s'arrête à l'équateur, et aussi à Kisangani, à la Tchopo, et un peu à la Mangala aussi. Pourquoi? Parce que les saisons pluvieuses ne sont pas comme au Congo central, encore moins à la Tchopo, où on produit que le cacao et les VA par exemple. Et après, nous avons nos produits qui viennent en renforcement avec les projets qu'on fait avec les villageois. Ces produits-là sont le produit vivrier, en outre le maïs. On a le manioc, on a le riz, et on a plusieurs produits aussi en termes de l'huile et autres qui sont directement transformés dans notre usine à Malmalou qui s'appelle MCC. Et notre produit phare qu'on a présenté aujourd'hui pour toucher directement la ménagère dans ce salon, c'est Tonganzoto qui est notre marque en tout cas en termes de produits accessibles et directs au grand public.
Tonganzoto concrètement c'est quoi? Il s'agit d'une exactement, à quoi consiste
Tonganzoto? Alors, Tonganzoto, c'est d'abord une marque. Un produit qui est dérivé dans plusieurs produits. On a le sol, la semoule de maïs, on a la farine de manioc, on a le riz, exactement, on a du riz, on a du savon cosmétique qui est fait à base de l'huile de palme et du curcuma, et on a du savon aussi de la ménagère pour le nettoyage quotidien, la lessive, la vaisselle, avec l'huile palmiste qu'on fait, un autre savon aussi, avec tout ça, qui est enrichi les produits directement naturels produits par le Congolais et qui est consommé aussi par les Congolais. Et nous aimerons qu'un jour que ça soit vraiment mis en exergue, comme vous l'avez dit, avec notre 80 millions de terres arables, qu'on arrive à les identifier, à les tracer et à produire et à devenir autosuffisants en termes d'alimentation, comme on l'était dans les années 70-80. Pourquoi pas continuer maintenant à redevenir numéro 1 dans le palmier à Wick et Indonésie, la deuxième place est occupée par la Malaisie actuelle, et le cacao en était les premiers. Tous ces semences-là, comme vous le savez, ça sort de Nera et Ngambi qui ont reproduit et qui ont été acheminés ailleurs. Et aujourd'hui, tout ce monde-là nous dépasse et nous sommes vraiment liés au dernier plan actuellement. Nous fabriquons même pas au fait un tiers de production de l'huile de palme que consomme le Congolais moyen. Donc nous avons encore du travail à faire et nous devons planter.
Voilà. Alors vous êtes là depuis plusieurs années. Est-ce qui a facilité notamment, votre implantation dans toutes ces provinces? Plusieurs années, c'est de l'expérience, c'est de la maturité, mais c'est également de la grandeur. Alors quels sont les défis quand même? Parce qu'on peut être grand et continuer à rencontrer des défis. Quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui? Est-ce que vous subissez le même défi que ces jeunes entreprises qui s'élance dans le business? Il parle notamment de la logistique, peut-être vous avez vos hectares, des terres, mais il y a des défis logistiques principalement. On voit la transport, on voit la distribution. Est-ce que vous rencontrez le même défi?
Alors les défis, oui. Ça ne manque pas parce que d'abord, vous savez, on a un sérieux problème de route. On est en RDC. Et nous avons notre ONG qui s'appelle BRC, justement, où on fait du développement rural. C'est à travers cette ONG-là qu'on développe tous nos projets, nos plus grands projets. On a eu des collaborations avec Enabel, où c'était une collaboration, je dirais, tripartite, où on était dans l'agriculture pérenne des palmiers, IVA et acacia. Et ensuite, on avait les produits vivriers et le route. Donc c'était un peu en trois volets. Et ça a permis aux villageois de faire les lumières et de livrer à temps les villageois par rapport à ce projet-là et en même temps d'avancer dans les routes pour résoudre le problème d'évacuation. Alors par rapport à ça aussi, on a une de nos sociétés sœurs, évidemment, TFCE, qui nous aide au fait dans les transports maritimes. Parce que vous savez, en étant à l'équateur, à Kisangani et autres, pour faire venir les des produits de cette quantité-là, des tonnes. C'est pas possible par la route. Les routes sont pratiquement impraticables depuis pas mal de temps. Et on espère que ces projets avec le couloir vert, les corridors verts, ça va ramener ces dynamismes-là et ces croisements-là où on va refaire les ponts, on va refaire les routes pour nous faciliter la tâche. En dehors de ça, on a des grands problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec certains importateurs qui bénéficient d'autres avantages que nous, producteurs locaux, nous n'avons pas. Et dernièrement, on m'a envoyé une vidéo par la FEC, d'où on est membre d'ailleurs, d'une jeune demoiselle qui est en train de pleurer. Elle vient d'ouvrir son business il y a à peine quelques mois. Et elle se retrouve déjà assommée par les taxes. Alors nous ne sommes pas épargnés, nous avons des taxes incroyables et par moments pas justifiées du tout parce qu'il y a des textes de loi quand même qui nous rallient à cela. Et tout cela, on est en train de discuter de cela avec notre ministre qui va alléger certaines choses comme le SMIG, parler du SMAG par exemple, comme en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, parce que le domaine agricole, comme vous savez, Ça dépend du climat. Il y a des années où on a une grande production. Vous pouvez même faire 200% de votre production. Il y a des années où vous êtes à 50%. C'est vraiment imprévisible. Donc on ne peut pas avoir des chiffres arrêtés pour le paiement de certains travailleurs ou pas. Et surtout en termes de taxation et autres. Donc on a vraiment beaucoup de défis. Je dirais même que l'entrepreneuriat de jeunes est freiné justement à cause de tout ce qu'on a comme tracasseries dans le domaine de gestion avec les taxes.
Alors, d'abord, si on va comprendre le fonctionnement de GBE, vous avez des plantations de différentes plantes et variétés. Mais vous avez plusieurs usines dans une usine, parce que vous avez plusieurs productions ici à Kinshasa. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs rapidement comment ça fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore dans leur tête aujourd'hui que la RDC vit des importations. Alors qu'il y a également de production locale. Comment ça fonctionne, tous ces processus, de la culture à la transformation?
Alors, pour commencer, comme je viens de le dire, le producteur et nos planteurs indépendants sont autour de nos plantations. C'est eux qui plantent avec l'expertise de notre service qu'on appelle la direction DDR. C'est la direction de développement rural, simplement. Et il y a des jeunes comme vous qui travaillent dans cette direction-là. La plupart sont des agronomes ou des gestionnaires pour donner des conseils en agronomie et donner des conseils et des formations qu'on fait par rapport à tous ces jeunes-là, c'est en comptabilité, en gestion financière, à tout ce qu'il y a autour de la gestion, au fait, pour leur permettre de devenir un peu des entrepreneurs autonomes et des dépendants en fait d'eux-mêmes, d'où on les appelle les planteurs indépendants. Et ces gens-là, quand ils produisent, dès qu'ils ont des récoltes qu'il faut adéquates, on a des calendriers agricoles, vous le savez. On a la période A, B, C. À l'équateur, on arrive même des fois jusqu'à D, parce qu'il y a des moments où on glisse dans certaines années, on a trois ou quatre fois les récoltes. Donc, à ce moment-là, avec tous ces jeunes-là qui travaillent, nos papas et les mamans, parce que la plupart de nos projets sont tenus par les mamans quand vous avez les projets de champs, quand on fait des appels d'offres, la plupart du temps c'est les mamans qui se présentent. Et c'est elles qui réussissent le mieux d'ailleurs. Alors les mamans, elles se présentent, elles cultivent, que ça soit le riz, le maïs ou le palmier, le calendrier sont bien tracés. Et là, on fait les achats directement des paddies. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les paddies. Les paddies, c'est le riz déjà non décortiqué, par exemple. Parce qu'on fait le décortiquage même pour conserver la qualité. Et ensuite, on achète aussi le maïs. Pas séché du tout. On achète vraiment des épis de maïs. Parce qu'on a des usines de transformation simple dans nos plantations, dans nos villages. Alors ça décortique et puis ça sèche. pour qu'on ait moins d'humidité possible pour éviter justement les chansons et d'autres bêtes pour infecter le maïs ou le manioc. Et à partir de ça, on les met dans nos bateaux. Les bateaux arrivent jusqu'à Maluku. À Maluku, c'est là où il y avait l'ancien Sifofo qu'on appelle. Là, il y a les usines. Si vous voulez visiter un jour, c'est ouvert. Donc, il y a les usines, il y a l'humidité pour le maïs, pour faire les grits, pour faire la semoule, pour faire la farine simple de maïs. Il y a aussi une partie où on fait le manioc. Par contre, le manioc vient principalement du Congo central, vu que de l'autre côté, c'est plus le makemba, le maïs et tout, qui sont consommés, c'est pas trop le manioc. Alors, quand ça arrive, au fait, la transformation, c'est fait à partir de l'usine. Et même les déconsachages de nos régimes pour retrouver les noix et avec lesquelles on fabrique l'huile palmiste qui nous permet ensuite de faire du savon ou de faire de l'huile rouge. Il y a des machines déjà pré-réglées qui nous mettent directement nos bidons à 2 litres et demi, 1 litre ou 5 litres. Ce sont les gens de bidons qui nous vendons par rapport à l'huile et autres dans la consommation ordinaire. Mais pour le reste, c'est vendu en vrac, évidemment, pour les grandes quantités qui sont vendues dans nos sociétés de la place pour la transformation directe avec Palmco ou AfriFood et autres qui rachètent directement l'huile qui vient de nos plantations. Mais c'est bien toujours dans les cales, dans les bateaux.
Alors plusieurs productions. Je vais d'ailleurs vous laisser profiter des espaces pour présenter la gamme de vos produits quand même.
On consomme, parfois on ne sait pas.
D'accord. Pour nos produits, vous allez les retrouver dans la grande surface. Ce qui est vendu au grand public, c'est les Tongan Zototo. Ça, vous trouverez ça dans nos grandes surfaces, dans les supermarchés, les marchés et partout ailleurs, même dans certaines églises. On collabore avec les mandistes, les catholiques, surtout dans les Tchangong, où on a un programme d'ailleurs avec deux ou trois orphelinats. Il faut que je retrouve les noms. Ces orphelinats-là, à chaque vente qui est faite dans des églises de Changou, ils ont un 2500 francs par sac qui sont reversés directement dans la cagnotte de l'orphelinat. Et chaque fin du mois, ça fait une enveloppe conséquente qu'on va déposer à chaque orphelinat qui leur permet d'avoir des frais de fonctionnement aussi. Ça fait aussi notre responsabilité sociale. Et en même temps, avec tout ce qu'on fait déjà dans nos villages, on fait des écoles, on fait des centres de santé, on fait les routes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a notre centre de formation qu'on vient de lancer à Loukoula depuis deux semaines déjà. Et on a déjà 16 apprenants qui sont en train d'être formés par deux formateurs pour la mécanisation agricole principalement, là où ils vont faire l'herçage, le labour, l'entretien des engins, la sécurisation des engins, la maintenance technique et autres. Ils sont en train de le faire pour renforcer les capacités professionnelles, en même temps qu'ils vont nous bénéficier à nous et à d'autres aussi, et la conduite des tracteurs. Et dans l'entretemps, la prochaine cohorte, ça sera principalement dans l'agriculture. Culture pour planter et planter dans la manière de faire la culture vraiment vivrière, donc côté biologique, naturel, avec des produits organiques, des composts, comment on le traite. On a eu aussi des projets comme les mouches soldats noires, pour l'alimentation de bétail aussi, tous ces secteurs-là. Et on est en train de développer pour permettre à tous ces jeunes qui viennent en formation d'être formés un peu dans tout. Et puis après, ils vont voir leur capacité pour se diversifier dans d'autres domaines.
Alors, on va terminer avec vous. Vous allez quand même faire un bilan. Aujourd'hui, vous évaluez l'industrialisation du secteur agricole à combien de pourcents et vous voyez à combien de pourcents dans 10 ans.
Actuellement, je dirais que on dépend encore beaucoup de la main-d'œuvre. Direct, en tout cas. Et moi, sincèrement, la mécanisation agricole, ça va en même temps avec l'humain. Je ne me verrais pas qu'un jour on se retrouve dans tous nos domaines avec des robots aussi, parce que dans nos villages, on ne peut pas dire que nous sommes les seules sociétés qui sont existantes, par exemple, à Isangi, à Yimbolo, ou à Bassankoussou, à Safa, ou à Ikela, Verboué et autres. Nous sommes parmi les seules sociétés à plus de 700 km. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pour ça qu'il y a ces développements avec tous ces projets que nous faisons. Et la main-d'œuvre humaine restera nécessaire dans notre pays. Mais dans l'entretemps, il faut leur apprendre justement à utiliser ces outils mécaniques qui vont améliorer leur existence et leur capacité. Et en faisant cela, moi je dis qu'on sera. Pourquoi pas 50%,
ça fera
50%,
ça sera bien. On sert. D'accord, merci beaucoup Madame Miss Bangala, directrice de projet et communication, GBE Agri, une grande entreprise, en tout cas une grande usine notamment de fabrication de plusieurs produits que nous consommons à la maison. Et merci d'accompagner l'événement. L'année prochaine, on se rend dans un endroit qui n'est pas encore précisé.
Et on sait déjà les invitants à Kisangani ou au Congo Central.
D'accord, merci beaucoup.
Merci.
Les grands salons de l'agribusiness et du digital connaissent également la participation de plusieurs banques en tant que partenaires et sponsors. C'est le cas de la FEST Bank qui est partenaire de l'événement. Et nous avons le plaisir cette fois d'avoir dans notre plateau Madame Khadija Founi. Elle est la responsable ONG FEST Bank. Madame Khadija, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors vous participez à cet événement non seulement comme simple participante, mais vous représentez FEST Bank qui est sponsor, partenaire de l'événement. Qu'est-ce que ça vous fait d'accompagner cet événement ?
Alors nous sommes présents au GESAD en tant que partenaire de Ali et puis en tant que sponsor de cet événement. La raison pour laquelle nous sommes présents à ce grand événement qui réunit les entrepreneurs dans le secteur agricole et tous les acteurs, c'est pour justement présenter la FEST Bank et ce qu'elle est actuellement en train d'implémenter, de mettre en place en termes de produits et services dédiés au secteur agricole, raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes présents au panel qui est actuellement en cours. Dans le cadre justement de l'accompagnement de ce secteur, la FEST Bank est actuellement en partenariat avec Ali justement pour pouvoir adresser, offrir des produits aux agripreneurs qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes.
Alors la FEST Bank participe au panel de la structuration à l'investissement, comment rendre les projets agricoles finançables. Est-ce que la FEST Bank initie également des actions en ces sens ?
Exactement. Voilà pourquoi j'ai mentionné au tout début que nous sommes actuellement justement en partenariat avec Ali. Justement d'accompagner les agripreneurs par des produits financiers qui répondent à leurs attentes ainsi qu'à leurs besoins. Alors actuellement, je pense que le panéliste l'a bien présenté sur ce que nous faisons déjà actuellement et il se pose réellement un problème, on va dire déjà dans la structuration de ces prêts et c'est la raison pour laquelle justement les clarifications ont été apportées et sont encore en train d'être apportées au cours de ce panel pour aider les agripreneurs à mieux se préparer, à mieux monter leur dossier en vue de bénéficier d'un financement au sein de la FEST Bank.
Alors qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut aller toquer aux portes de FEST Bank pour bénéficier d'un financement ? Est-ce qu'il y a un concours ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour bénéficier de ces financements ?
Non, pas du tout. Il n'y a pas un concours. La FEST Bank est une banque qui est ouverte à tout profil, à tout type de clients. Ceux qui ont réellement ce besoin, qui pensent qu'ils peuvent être accompagnés, il y a lieu qu'ils entrent en contact avec la banque via les agents clientèle, via les différents gestionnaires de compte qui sont à leur disposition pour pouvoir justement soumettre leur requête.
Donc c'est très simple, il suffit. Mais apparemment, les gens ont peur de vous approcher sans savoir. Les gens ont peur d'approcher les banques. On parle quand même à plusieurs entrepreneurs qui nous disent non. En tout cas, moi, les banques, il y a les taux d'intérêt est très élevé. Il y a tout ça. Il y a beaucoup de complications. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer toutes ces personnes qui nous suivent ?
C'est vrai, dans la réalité, la population a peur de se lancer, d'oser. Mais voilà, les motifs ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes. Le plus important, justement, c'est d'aller vers la banque et c'est la banque via justement ses agents clientèle, les gestionnaires de compte qui pourront mieux accompagner le client qui exprime ce besoin de financement parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Certains peuvent avoir besoin de financer par exemple l'achat des équipements de transformation, d'autres c'est peut-être pour des achats de terrain ainsi de suite, mais le dossier est analysé différemment selon que la demande est destinée à tel ou tel but.
Donc vous l'avez entendu, hein, il est possible que votre projet soit financé, votre projet agricole, parce qu'on parle ici de GESAD. Il suffit simplement de bien présenter son projet et d'approcher les agents de la banque, bien sûr, pour être accompagné. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à dire à nos auditeurs, un dernier mot, au vu de votre participation à cet événement?
Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs du GESAD et déjà rassurer notre clientèle First Bank que nous sommes vraiment la banque de premier choix en RDC. Et donc n'hésitez pas, pour toutes les questions que vous avez, pour tous les besoins que vous avez, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes qui sont dans nos agences, ainsi qu'au niveau de notre siège de la banque. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour bénéficier des orientations, des services et des éclaircissements sur les différentes questions que vous pourrez avoir en ce qui concerne la First Bank. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Les secteurs agricoles en République démocratique du Congo rencontrent d'énormes défis, notamment pour des productions qui proviennent de l'intérieur du pays. Et pour répondre à ces soucis, on a besoin de bonnes logistiques, des bons outils. Et ces outils, c'est notamment des bons matériels de transport, que ce soit de trucks, que ce soit de véhicules ou même des tracteurs. Et la société Panafrique Motors by Tata Motors est sponsor et partenaire, bien sûr, de cet événement GESAC, les gros salons de l'agriculture, de l'agribusiness et du digital organisé ici à Kinshasa. Je reçois un cadre du service commercial, monsieur Baron Simba. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous participez à cet événement en qualité de sponsor. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous êtes content de prendre part à cet événement, mais également de les sponsoriser?
Enfin, comme vous savez, une entreprise a toujours besoin de lumière, plus de lumière pour accroître un peu ses services, pour une bonne image par rapport à ses services et élargir son public. Déjà, Tata Motors, ou Panafrique Motors, nous sommes là en RDC, ça fait plus de 30 ans. Et ces genres d'événements sont toujours le bienvenu pour nous.
Et c'est un domaine quand même qui touche aussi votre niche, parce que pour l'agriculture, on a besoin des tracteurs et vous vendez des tracteurs. D'ailleurs, en dehors des tracteurs, quels sont les autres outils matériels que vous vendez?
Enfin, comme vous venez de le souligner, les tracteurs sont bel et bien très importants pour tout ce qui concerne l'agriculture. Hormis cela, nous avons aussi des pick-up qui peuvent aller dans des terrains marécagés, dans des terrains forestiers, et très très important. Et nous avons aussi de camions et camionnettes de distribution qui vont visiblement aider pour ces secteurs. Et voilà pourquoi, c'est ça qui justifie notre présence ici.
Et vous êtes content de ces partenariats, de sponsoriser cet événement?
Honnêtement, nous sommes très satisfaits. Pas qu'est content, mais satisfaits aussi. D'autant plus en étant ici, on a rencontré pas mal de intéressés, on a rencontré pas mal de prospects qui vont se transformer encore à des clients, et cela va nous aider encore à élargir notre portefeuille.
Alors, on parle de la modernisation, de l'agro-business. Il y a encore aujourd'hui parfois des problèmes de financement pour certaines entreprises, pour certaines personnes qui s'élancent dans l'agriculture, mais qui ne parviennent pas, par exemple, à avoir assez des moyens pour se procurer des véhicules adéquats pour les transports de tout ce qui rentre dans l'air production.
Enfin, soucié de répondre ou de pallier à cette problématique, on a plusieurs modes de paiement. Il y a les modes d'abord qui est courant, le mode de paiement cash, et il y a aussi les modes de paiement par crédit. Et il y a aussi les traits bancaires, et pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, peuvent payer par mensualité. C'est-à-dire, si vous devez faire la première avance qui est de 60%, vous pouvez avancer. Si vous avez 2%, vous donnez, 5%, vous donnez, jusqu'à ce que vous aurez versé les 60%, vous avez le véhicule, le reste serait payé par plusieurs mensualités.
Mais quelles sont les conditions aujourd'hui pour prendre par crédit? Est-ce que tout entrepreneur qui s'élance peut bénéficier de ces crédits? Il faut répondre à certaines conditions.
Enfin, on est ouvert à tout type d'entrepreneurs, on est ouvert à tout type d'entreprise. Donc voilà, il n'y a pas assez de conditions pour ça. Ne serait-ce que de respecter les 60% avant de se procurer le véhicule. Et le reste sera payé par plusieurs mensualités, comme je viens de dire tantôt.
D'accord, merci beaucoup. Et on est très content de vous avoir sur notre plateau. Un dernier mot à dire à nos auditeurs, à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
En tout cas, on est satisfait d'être là. consulter toutes les pages des Panafrique Motors. Venez, nous sommes sur Colonel Moudjiba, nous sommes sur 11e rue limitée industrielle. Donc ça serait toujours un plaisir de vous voir. Étant première entreprise automobile, donc on ouvre toutes nos portes à tout type d'entrepreneur. Ne jugez pas de loi, n'ayez pas d'autres calculs de loi. Approchez-nous et venez, vous serez vraiment satisfait. Et je tiens aussi à vous remercier pour cette interview.
D'accord, merci beaucoup.
Merci, c'était un plaisir pour vous.
Les grands salons de l'agribusiness et du digital, c'est également mettre en compétition des entrepreneurs et accompagner le meilleur. Parmi ces participants, j'ai en face de moi une candidate. Elle s'appelle Laetitia, elle nous fait de bouillie. Bonjour Laetitia.
Bonjour Clostéphie, bonjour à tous les auditeurs de UFM.
D'ailleurs, une voix qu'on saura reconnaître pour les anciens sur UFM. Alors, à l'image d'ailleurs de ta stature, tu proposes de bouillie. Bon, nous les personnes minces, je pense qu'on doit davantage t'approcher pour s'en procurer et prendre un peu de poids aussi. Tu fabriques de la bouillie que tu nommes comment, que tu présentes comment?
Ok, alors je pars de Rimbo Poto Poto, qui est comme arc-en-ciel. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi arc-en-ciel, c'est justement à cause des mélanges qui composent cette marque de bouillie. Alors, c'est la marque de bouillie purement congolaise, faite à base de nos propres produits locaux. Et elle est faite à base des céréales et des légumineuses, pensée pour résoudre la question liée à la prise de poids. Donc, il ne faut plus vous poser plus de questions. Mon enfant a perdu du poids, problème de digestion, problème gestion de cholestérol et tout ce qui va avec. Alors, on a apporté cette solution tellement innovante. D'ailleurs, moi-même, sincèrement, je ne suis pas en train de faire la pub. Hein.
Non, je vais le faire à ta place. Lorsqu'on te voit, on se voit que c'est vraiment une personne qui a un bon point.
Toi-même, tu vois. Voilà, c'est la raison même pour laquelle aujourd'hui nous sommes là, justement pour présenter le projet auprès des investisseurs afin de gagner une cagnotte, bien sûr, qui est prévue pour le premier, deuxième et troisième grand prix et puis les autres qui vont s'en suivre.
On parle de l'agribusiness. Tu peux nous parler de la chaîne de valeur de la production de Rimbo, c'est ça? Oui. Et comment tu fais? Comment tu fais pour t'approvisionner? C'est quoi la matière première d'ailleurs pour le fabriquer? Et aujourd'hui, la quantité de production, comment tu fonctionnes?
Alors, avec la gamme Rimbo Standard, on a d'abord le Rimbo qui est fait à base de soja, maïs, millet, blé, le riz, l'arachide. Bien sûr qu'il y aura d'autres gammes également à base de légumes comme des carottes, des bananes, plantains et tout. Mais on commence d'abord par aller nous approvisionner auprès des producteurs locaux parce que c'est ça aussi le but. Et pas seulement vendre, mais également soutenir ces agriculteurs congolais. Alors, on achète d'abord la matière première auprès d'eux. Et après quoi, on commence par la tri. Donc, on trie et on va transformer. Je vous assure, ce n'est pas mince à faire. Avant, quand j'ai commencé, dès que j'ai fait la production, il fallait que je tombe malade. Imaginez. Parce que c'était pas une mince.
Épuisant.
Oui, c'était tellement épuisant. Mais après, comme on apprend aussi sur cette lancée-là, on a appris à déléguer, à avoir une équipe qui transforme, une équipe qui va griller. Parce que le soja, il faut d'abord le griller au préalable avant de mettre dans le emballage. Donc, on grille, on transforme, on va faire le mélange et puis on va faire passer à la balance, et puis commencer à mettre dans les emballages jusqu'à la livraison. Donc, on met dans des emballages, il y a pour 500 grammes, il y a pour 1 kilo. Et après, on va commencer à livrer soit dans des hôpitaux, si on a de marge avec des hôpitaux, des centres de santé, et sans pourtant parler des ménages qui viennent aussi et en chercher pour les enfants, les adultes et voilà.
Alors aujourd'hui, tu es en compétition, tu te sens prête à gagner. Qu'est-ce qui te ferait gagner?
Ah, je suis toujours prête, mais ce qui me ferait gagner, c'est d'abord l'impact que représente ce projet. Parce que avant tout, ce n'est pas seulement question de chercher de l'argent, parce qu'on n'investit pas, on ne vient pas. Moi, je ne me présente pas là uniquement pour chercher l'argent, mais je viens avec une solution que tout le monde peut voir. Parce que les impacts ou bien les résultats parlent de lui-même. J'ai amené un exemplaire là-bas. Je n'ai pas amené une idée, mais j'amène un projet réel qui vit déjà. Mais on a juste besoin de passer de l'artisanat à une entreprise semi-industrielle. Donc, on a du matériel. Il faut justement implanter, trouver un cadre approprié pour pouvoir conquérir des grands marchés. Et ça nous demande, ça nous a épuisés parce que acheter des machines, arriver jusqu'ici et les installer, ce n'est pas mince à faire. Si seulement on ne m'avait pas dit ça avant, j'aurais abandonné, mais heureusement, je ne pouvais plus.
Vraiment, donc tu n'abandonneras pas. Alors, merci hein, de passer à notre plateau et bonne réussite. Vous les avez entendus défiler dans notre plateau éphémère ici au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. Plusieurs ont évoqué de défis, de challenges, mais également des opportunités importantes qui peuvent permettre à des entrepreneurs dans les secteurs agricoles de se lancer et bien sûr de développer une entreprise avec succès. Mais la question des défis revient et reviendra encore. Les organisateurs l'ont annoncé. À l'issue de l'événement, ils vont soumettre des recommandations à des entités, des institutions et des personnes, des personnalités adéquates afin de trouver des solutions. Parce que l'objectif de l'événement est de moderniser, de développer les secteurs agricoles. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement et pour une nouvelle discussion et de nouvelles voix.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.